dernier verset de ce chapitre. Verset, donc on va reprendre le verset même d'Alet. Vaya pilou la lot el roshaar varon berit Hashem o Moshe lo mashu mikerev amach. Ils insistèrent pour monter en haut de la montagne. Et l'arche d'alliance de Dieu et Moïse n'ont pas bougé du sein du camp. C'est bon? Voilà. Et monsieur Thierry, voilà, et carrément, il va nous dire le verset même et le traduire et nous l'expliquer.
Est-ce que Moshe n'a pas bougé? Est-ce que Moshe n'a pas bougé parce que l'arche ne bougeait pas?
Comment?
Est-ce que Moshe n'a pas bougé parce que l'arche ne bougeait pas?
Oui, mais là, ça ne nous enseignerait rien.
Je ne sais pas.
Non, on dirait qu'il avait une marge de manœuvre. On dirait qu'il avait une marge de manœuvre qu'il n'a pas prise. Hein.
Ou alors, est-ce que c'est une manière de dire que les Lévis n'ont pas bougé? Parce que c'était en tout cas la branche qui portait l'arche, peut-être même sous l'ordre de Moshe?
Non, ça c'est l'Aaron Brit Hashem, ça c'est les Lévis, ils sont la première proposition. La deuxième, c'est Moshe, c'est lui en tant qu'individu.
Non, oui, mais non, je voulais dire pour l'arche, bien sûr.
Oui, l'arche, c'est
il y a l'année Kavod n'a pas bougé.
Voilà, l'année Kavod n'a pas bougé.
Non, on n'a pas fait du tout. Ah, là, tu me l'as quitté. Alors, Vayered à Malki, Veakena Ani, Ayoshev, Ba'ar, Aou, Vayakum, Vayaktum, Ad, Achorma.
Achorma.
Achorma. Mais il y a un A, il y a un...
Oui, le Kamatz. Ce Kamatz-là, suivi du Shva, il se prononce O.
Ah, O, d'accord.
Alors, je ne connais pas la règle, mais je ne connais pas bien la règle. Des fois, c'est comme ci, des fois, c'est comme ça. Mais en tout cas, l'expérience me montre
d'accord.
Que ça se prononce O.
Alors, Vayered, c'est descendre, oui. Comme Yored Geshem, il pleut.
Oui.
Donc c'est un vav conversif, donc c'est un passé. Et c'est un singulier. Il descendit.
Oui, il descendit. Donc Yered, ça veut dire il descendra. Oui. Alors, il y a un dagesh dans le yud. C'est comme s'il y avait deux yud. Hein. C'est comme s'il y avait... Oui. Bonjour, Eli. Bonjour.
Bonjour.
Il y avait deux yud. Yered, il descendra avec le vav. Il est descendu à Maléki.
La Maléfite.
Oui.
Et à Canaani, le Cananéen.
Oui, alors là, on voit ça souvent hein, dans les versets, que souvent, tu as deux sujets... avec deux sujets, avec un verbe au singulier.
Ayoshev, Yashav, c'est résider.
Oui.
Bahar.
Donc, Ayoshev, ça veut dire
Qui résidait.
Voilà. Bien que ce soit, alors encore une fois, hein. Ayoshev, qui réside, c'est au singulier.
Oui, qui réside.
Et là, il y a deux sujets. On aurait dû dire Ayoshim.
Oui. Mais c'est clair, ça. Ils font chose commune. Donc, c'est un seul groupe. C'est deux peuples qui font un seul groupe. Donc, comme c'est un seul groupe, on dit un singulier. Ils font cause commune.
Ils font cause commune, bien qu'en vérité, ce sont deux peuples qui, a priori, n'ont strictement rien à voir.
Ouais, mais hein? Pour la circonstance.
Pour la circonstance, ils font cause commune. C'est bien, très bien.
Le préfixe « et », c'est pour dire quoi dans Hayoshev?
Alors, « Vayered Amaleki Vaknani »
Hayoshev.
Qui est assis? Qui est installé?
Qui habite?
À déterminer, oui.
Voilà, en vérité, c'est un qualificatif. Yoshev, ça aurait été c'est un participe présent.
C'est l'habitant.
Mais si On avait dit Yoshev, ça aurait été sous forme de verbe, tandis que là, c'est sous forme de d'adjectif qualificatif.
C'est le Aleph, le E, c'est le habitant.
Voilà, qui est habitant. Voilà.
Dans cette montagne.
Voilà.
Vayakoum. Il n'y a pas beaucoup de lettres, hein, là. Ça manque de lettres. La racine, c'est kaf. Mais kaf tout court.
Alors, on va commencer doucement. Kaf et. Hein, kaf et.
Oui.
On va commencer par kaf et.
Bonjour.
On va mettre, bonjour Dan, on va mettre un petit mème au début qui est défectif là sous la forme future. Le mème disparaît. Maka.
Un coup.
Vayakoum, ils les ont frappés.
Mm-hmm.
Donc regardez, c'est très intéressant. Hein. Là, vraiment, c'est un bon exercice. Mm. Parce que Vayakoum. Vayakoum, la racine, c'est même kaf-e. Et il y a deux lettres de la racine qui disparaissent à cette forme conjuguée, ce qui est quand même balèze.
Oui.
Mais vous pouvez aussi constater que vous connaissez le mot.
Si on trouve les deux autres lettres qui manquent, les lettres manquantes.
Voilà, c'est vrai. Si on imagine.
Une fois que tu me les as données, ça allait. Mais...
Hein?
Une fois que tu m'as donné les lettres manquantes, je connaissais le mot. Mais
alors, hein. Madame Zerdoun nous dit Boker Tov, les Koulins, nous sommes.
Verset 45.
Ah, merci beaucoup. Toda Rabba, merci.
Ok, très bien.
Alors, donc, Vayakoum, donc, c'est Yakoum, c'est le futur, troisième personne du pluriel, le vav conversif.
Avec le suffixe de « e », le même à la fin, c'est « e ».
Oui.
Yakou, ils frapperont.
Oui.
Yakoum, ils les frapperont. Vayakoum, ils les ont frappés.
Ils les ont frappés.
Regardez, là, c'est quand même c'est intéressant parce que là, on est à l'époque des examens de fin d'année. Si je donnais un petit examen à nos amis…
Non.
Analyser le mot Vayakoum.
Pas de Nifrad.
Ça, ce serait bien, non? Qu'est-ce qu'il pense, Antoine?
J'en pense du bien, bien sûr. Beaucoup de bien.
J'aime bien les faillots. Là.
C'est important.
Rav.
Oui.
Le Shoresh, c'est Maka?
Oui.
Parce que Maka, c'est pas le substantif. C'est la
non, non Maké. Maqué, aqué, aqué, et kaf, et en vérité.
Voilà,
c'est Shoresh. Oui, Eli, lui, faillote pas. Il me fait bosser. Très bien, Khazak.
C'est un compliment ou
un compliment? Non, c'est un compliment. Alors, Thierry, en vérité, Élie nous a fait avancer que c'est la racine, c'est pas même café, c'est écafé. Écafé.
Voilà. Oui, parce que Ika, c'est frappé.
Oui, c'est ça. Et frappé. Donc, Vayakoum. Donc, alors, regardez, c'est intéressant parce qu'au début, Vayered Amaleki Vaknani Ayoshev Araou, c'est au singulier. Maintenant, tout d'un coup, ça devient au pluriel. Ils les ont frappés. Donc je reprends Vayakoum. C'est vraiment très intéressant. Vayakoum. Je reprends. On va mettre à plat. Vayakoum, la racine, c'est E, Kaf, E, qui veut dire frapper. E, Kaf, E, qui va donner Maka. Le substantif, c'est Maka. Bien. Alors. Yakoum, c'est ils frapperont. Yakou, ils frapperont. Yakoum, le même final, ils les frapperont. Yakou, le même. et le vav conversif. Voilà. Alors là, c'est vraiment... Là, on est vraiment en période d'examen. C'est top.
Alors, vayaktoum.
Ah. Qu'est-ce qu'on s'arrache les cheveux?
Ça veut dire... Vous chantiez.
Eh bien, dansez maintenant.
Vous chantiez. J'en suis fort aise. Eh bien, dansez.
Dansez maintenant.
Alors, on y va. Vayaktoum.
Il y a kaf et tête. Et ta.
Oui. Kaf, tav. Et moi, je pense que c'est kato.
Ah oui. Et on l'a vu.
C'est comme en français, c'est la kata. Non, vraiment, c'est ça. Hein, c'est la kata. C'est détruire, briser. Oui. Kato.
Yaktoum, c'est exterminer.
Non, mais lui, il pompe là, dans la traduction. Là.
Juste pour revenir à la conjugaison d'avant, d'après le site où je vais regarder les verbes, la racine c'est nun.
Il est frappé.
Oui, c'est
nun kaf'e. Parce que c'est le verbe le'akot.
Oui, mais parce que ça c'est l'unif'al. Il y a nika et hika.
D'accord.
Nika c'est frapper, genre quand on frappe, et nika c'est être frappé. C'est le dictionnaire qui est la rousse qui dit ça.
Allez, mec, c'est des stars. Hein. Oui. Alors là,
attention.
Non, mais bon.
C'est bon, d'accord.
Je vais rien relier ce qu'on apprend avec. Okay.
Moi, non, c'est bien, c'est très très bien. Non, là, c'est très bien.
Donc là, c'est kata brisé.
C'est brisé. Hein? Kato, le verbe kaf, tav, et, c'est brisé. Yaktoum. C'est-à-dire, Yaktoum, ils les briseront, Vayaktoum, ils les ont brisés.
Ils les ont brisés.
Bien, voilà. Donc, il y a frappé, il y a brisé, Ad Achorma.
Ad, c'est jusqu'à.
Oui, alors, Kherem, le mot c'est Kherem.
Kherem.
C'est quoi Kherem?
Monsieur, je sais, monsieur.
Oui, moi aussi, je sais, mais j'ai oublié.
Qui c'est qui a dit je sais?
Non, mais j'ai le CRM.
C'est moué.
Alors, oui, qu'est-ce que tu veux dire?
Anathème.
Un anathème. Hein?
Oui.
Quelqu'un qui est mis en anathème, il y a deux mots. Il y a le nidouille, c'est mettre au banc la communauté. Il y a un statut qui s'appelle le nidouille, mettre au banc la communauté. Quelqu'un, par exemple, qui a fait une faute, la communauté peut, par exemple, le mettre au banc pendant 30 jours. Ça s'appelle nidouille.
Ça, c'est l'excommunication, en fait.
Comment?
Le kherem, c'est l'excommunication, non?
Voilà. Nidouille, c'est mettre au banc. Mais kherem, c'est l'excommunication.
C'est Spinoza.
Voilà, par exemple, hein, le brave, il a été mis en kherem, ce qui est exceptionnel. Hein, c'est exceptionnel. C'est très rare. Hein, on n'est pas du tout. C'est pas dans notre culture de mettre en anathème. Et effectivement, le terme qui a été employé. Le terme qui était employé au sujet de Spinoza, c'était le kherem, l'anathème, il était mis en anathème. Voilà, kherem. Donc, en vérité, kherem, ça veut dire banni.
Ouais.
C'est un terme très, très grave. Hein.
Bannissement, oui.
Voilà, jusqu'à l'anéantissement. Donc, vous voyez ici…
Orma, c'est l'extermination.
Oui. Oui et non. Ouais, jusqu'à l'anéantissement, moi je dirais, jusqu'à ils sont anéantis. Vayaktoum. Donc là, ça se termine, ce passage, ça se termine dans la catastrophe. Parce que là, leur teshuva n'était pas une bonne teshuva. Ils ont voulu faire teshuva, mais elle n'était pas appropriée, elle n'était pas bonne. Voilà.
Elle n'était pas agréée.
Pas agréée du tout. Et là, on va commencer un passage qui me bouleverse, un des passages qui me bouleverse le plus de la Torah, comme on va le voir tout de suite. Voilà, Dan Cohen peut-être.
Oui, avec plaisir.
Allez, merci. Juste
pour Achorman, c'est un nom de lieu aussi.
Oui, Rashi explique. C'est un nom de lieu qui a été donné en conséquence de ce qui s'est passé. Ça a été une hécatombe. C'était une hécatombe.
Et là, c'est tout le peuple qui se fait frapper, ou non, c'est qu'une partie
c'est,
parce que...
c'est les Ma'apilim.
C'est les Ma'apilim.
C'est-à-dire, il y a eu un groupe qui a dit on y va quand même. Voilà. Et ce groupe qui a dit on y va quand même.
D'accord. Voilà. C'est merci.
Mais pour au niveau de l'histoire contemporaine, hein, je vous l'ai dit hier, que il y a eu quand il y a eu le autour de la Seconde Guerre mondiale, Israël était en mandat britannique et il ne permettait pas aux Juifs de venir se réfugier en Israël. Et il y en avait qui organisaient des immigrations clandestines et les ont appelés les Ma'apilim. Et ceux qui faisaient ça, ils allaient en prison. Hein. Ça rigolait pas. Hein. Et ils appelaient ça les Ma'apilim, c'est-à-dire les clandestins, les immigrations clandestines. Et c'est intéressant quand même. Comment ils ont trouvé la source de ça dans ce verset. Bien, alors, Bechavon, M. Cohen.
D'abord, Adonai et Moshe, les morts. D'abord, El Béni Israël, Vien Martalehem, qui t'avoue où elle erret, Moshe voterem, Asher, Ani, Noten, Lachem. Vasitem, Ishe, Lachem, Rola, O, Zeva, les Falé, Neder, O, Bin, Dava, O, Bemorade, Rem, Tarasot, Reya, Nihra, Adonai. Min Habakar ou Min Hatson.
Voilà. Allez, au boulot.
Alors, Hachem parla à Moshe en disant, parle aux béné Israël, aux fils, aux enfants d'Israël, et tu leur diras que qui t'avoue ou elle eret. Que quand Tavo, c'est Lavo, hein, c'est quand vous viendrez, elle, point de destination,
oui.
Elle, sur la terre d'Israël, Moshvoterem, Afer, Aninoten.
Alors, Moshvoterem, El Eretz, Moshvoterem.
Moshvoterem, alors, Terem, c'est quelque chose qui appartient, quoi,
oui.
À vous. Moche vos terrains, donc je dirais dans vos maisons, à cher Annie de Tenlachem.
Attends, oh là là, attends, est-ce que. Attends, j'ai dit que c'était la période des examens là. Attends, là, il se la joue tranquille. Tu peux nous analyser pour tes petits camarades le mot moche vos terrains.
Moche vos terrains, moshav, c'est de la racine. S'asseoir.
Oui, Yoshem. Alors, regardez, c'est intéressant parce que Moshvoterem, c'est le mot Moshav.
Oui.
Hein?
C'est ça.
Un Moshav en Israël, c'est un village, quoi.
C'est ça.
Donc, quand vous arrivez dans la terre Moshav, c'est-à-dire de vos installations, Moshav, Yoshev, on l'a vu tout à l'heure, Yoshev, c'est installé. Moshav, être installé. De l'installation, Moshavot, regardez, je l'analyse, hein, parce qu'on est là pour ça. Donc, Moshvoterem. Alors, donc, la racine, c'est Yud. Voilà. Il y a Moshav, comme on l'a vu, Moshav, c'est le substantif de s'asseoir, c'est-à-dire de l'installation. Hein. Moshav, c'est l'installation. Moshavot, Moshav, c'est féminin. Moshavot, c'est le pluriel. Moshvot echem, de vos installations. Moshvot, vos installations. Yud chem, vos installations, les installations à vous, vos installations. Donc, quand vous arriverez dans la terre de vos installations, Asher aninoten lachem,
que je vous ai donné, que je vous donne, quoi.
Que, oui, analyse les mots, Asher, que.
Que je,
dis-moi,
donne, oui, vous.
À vous. Noten, donc c'est donné, que je donne à vous, que je vous donne. Donc regardez, après toute cette catastrophe, première chose qui se passe, c'est Dieu dit voilà, je vous donne des commandements, lorsque vous arriverez dans la terre de vos installations que je vous donne, au présent que je vous donne, bien, verset guimel.
Vasitem ishe. Alors, et vous ferez. Ishé, c'est un sacrifice.
Oui, ah. Mais, oui, c'est juste.
C'est un feu.
Ish. Un feu. Voilà.
Esh.
Esh. Ishé.
C'est un sacrifice par le feu, en fait. L'Adonai. Voilà.
Un feu. Alors, une seconde doucement. Hein. Esh. Esh. Esh, c'est le feu. Voilà. Esh, c'est le feu. Ishé, c'est pareil, c'est un feu. Quand vous ferez un feu pour l'Éternel, donc un korban, onkelos traduit korban. Quand vous ferez un korban pour Dieu, Ola.
Alors, bon, il y a plusieurs sacrifices. Ola, c'est en fait un sacrifice de comment dire, c'est un holocauste, c'est en l'honneur d'Hachem, non?
Oui, alors, Ola, la spécificité du Korban Ola, donc là, ça va être très technique.
Oui, parce qu'il y a Ola, il y a Hatat, il y a…
Voilà, c'est ça, donc ça va être très technique, mais c'est un passage très important. Tu te souviens, Damien, on l'avait étudié ce passage dans Kiddushin,
pour l'arrivée en terre d'Israël, la spécificité du don du peuple
de Minchat Nesachim.
Minchat Nesachim, voilà.
Voilà, ça va être le passage de Minchat Nesachim. Alors, Ola, c'est comme tu l'as dit, un petit clapping là, des familles, un clapping matinal. Sympathikos matinalos. Oui. Ola. Ola. C'est un holocauste. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est un animal entièrement brûlé sur l'autel.
Mais la racine, ça veut dire autre chose? Non, c'est holocauste.
Ola, le mot Ola, c'est monté.
Oui, Ola.
Ah oui, c'est monté, ouais.
Hein, c'est monté, ça veut dire dont la fumée monte complètement. La fonction. La fonction de ce corban et que la fumée monte. Voilà. Voilà. Donc, vous ferez un feu pour l'Éternel. Ola. Donc, c'est un holocauste en français. O, O, Aleph, Vav, ça veut dire où, hein? O. Ça veut dire où, ou bien. Alors, Vasita Michel Hachem, Ola, O Zevar. Alors, le mot Zevar, qu'est-ce que ça veut dire Zevar?
Zevar, sacrifice.
Pas vraiment. L'Isvar veut dire égorger. Alors, le mot zévar. Ça veut dire égorgé. Lisvoar. Lisvoar veut dire égorgé. Par exemple, c'est écrit dans le Sefer Devarim, quand tu voudras manger de la viande, les avarta, tu l'égorgeras comme je te l'ai ordonné. Alors, la spécificité là, de ces deuxièmes sortes de korban réside dans la zvicha. Ça veut dire, regardez, pour essayer de voir clair dans cette idée, dans ce sujet, on va essayer de élargir le sujet. Comment nous, les humains, on mange de la viande? C'est une question. Alors, vous savez, aujourd'hui, il y a des gens, ils sont, oui, on ne doit pas manger de viande, tartempion, etc. Vous avez entendu ça, hein? Bien. En réalité, il y a une trentaine d'années, il y a un pseudo-philosophe qui a lancé, le premier qui a lancé l'idée complètement, excusez-moi, je m'exprime, absurde, de dire oui, tuer des animaux comme on le fait, c'est un vrai holocauste. Et moi, en mémoire de mes grands-parents qui sont morts à Auschwitz, je vais militer contre l'abattage dans les abattoirs. Voilà. En français dans le texte. Ce n'est pas en français, c'est en anglais. Il se dit philosophe, il s'appelle Peter Singer, c'est un philosophe australien. Je crois que c'est le premier qui a lancé ça. Il a dit franchement, hein, il fallait ça. Je crois que sa famille, elle vient de Lodz. Thierry, tu as de la famille qui vient de Lodz, toi aussi?
Moi, c'est Roumanie.
Comment?
Non, pas, moi, non, c'est de Roumanie, la partie ashkénaze.
Ah, Roumanie, d'accord. Non, je crois que c'est de Lodz. Parce qu'il faut être vraiment... Lodz, c'est là où mon père est né. C'est... Il faut tenir... Non, ça veut dire, c'est un genre, quoi. Un genre. Il faut déjà lancer un... Mais en tout cas, son blabla a fait florès. Aujourd'hui, c'est tout un truc. Hein. On ne mange pas de viande. De quel droit, moi, être humain, je vais manger de la viande, etc. Okay. Le premier qui a lancé ça, c'est Peter Singer. Vous pourrez voir ça. Hein. Je crois qu'il s'appelle Peter Singer. Je vous demande une seconde. Ouais, c'est ça, Peter Singer. C'est un des inventeurs de l'antispécisme.
Qu'est-ce que c'est que cette affaire-là?
Comment?
Qu'est-ce que c'est que ce...
C'est-à-dire qu'il n'y a aucune spécificité au fait... d'être aucune spécificité au fait d'être un être humain. Les parents de Singer, ses grands-parents paternels furent déportés à Lodz. Son grand-père maternel mourut à Theresienstadt. Alors, c'est en l'honneur de ses grands-parents morts dans les camps que lui, il a dit qu'on ne doit pas manger de viande. Il faut le faire. Là, vraiment, ça, vraiment...
Ils étaient partis en fumée.
C'est une idée fumeuse. Alors, mais en tout cas, ça fait florès. Vous connaissez des gens qui disent ça. Hein. Il y en a plein même. Hein.
J'ai une cousine qui vit à San Francisco. Là-bas, je ne peux plus manger de viande. C'est...
Voilà. Hein. Mais celui qui a l'origine de ça, il n'y en a pas deux, il n'y en a pas trois. C'est un, c'est Peter Singer.
Ces gens-là qui sont... contre la viande et l'abattage des bêtes, ils sont volontiers antisémites.
Ah oui, ça va avec, parce que contre la circoncision, bien évidemment, ça va. Ok. En tout cas, quoi qu'il en soit.
Mouvement végan.
Ce étant, le coup de théâtre dans notre étude, c'est que c'est pas idiot non plus. Je vous ai eu là. Vous êtes rentré dans mon piège, parce que dans le fond, c'est pas faux. C'est pour ça que la Torah nous dit qu'il faut faire la Shrita. La Shrita, qui s'appelle la Zvicha. La Shrita, il y a plusieurs mots pour dire Shrita, l'abattage. Et le mot que nous avons ici, c'est Zvicha. C'est un acte, en vérité. Dans le désert, ils n'avaient pas le droit de manger de viande de boucherie. Dans les 40 ans qu'ils étaient dans le désert, ils n'avaient le droit de manger que des corbanotes. Et d'ailleurs, l'acte que fait le shochet en faisant la shrita est un acte qui est le même acte que quand on fait au temple. Si vous voulez, en bon français, on pourrait appeler quelqu'un qui fait la shrita, ça fait un peu en poulet, mais un sacrificateur. Bonjour monsieur, qu'est-ce que c'est votre métier ? Je suis sacrificateur. Donc en vérité, quand nous, on mange de la viande cachère, ce n'est pas un abattage comme ça, c'est une sanctification. C'est un acte d'une haute élévation. Et s'il n'y a pas cette haute élévation, on n'a pas le droit de manger de la viande. Donc finalement, ces philosophes boutonneux, post-Holocauste et tout ça, c'est pas faux. C'est vrai que si l'homme n'apporte pas une dimension hautement spirituelle dans le fait de manger de la viande, c'est vrai, c'est pas légitime de manger de la viande.
Ça, c'est pour les enfants d'Israël, ça.
Comment ?
C'est pour les enfants d'Israël, c'est pas universel.
C'est pas universel. C'est juste. Mais prenons un exemple. Les musulmans, qui est quand même 1,5 milliard de l'humanité, un truc comme ça, je sais pas, à la louche, je vous fais ça à la louche. Même si pas tous sont regardants, exigeants, mais ils ont introduit néanmoins la dimension d'un abattage. Et quand ils font l'abattage de leur viande, ils se tournent vers la Mecque et il y a une dimension de c'est moins évolué que la shrita juive. D'ailleurs, beaucoup de musulmans achètent de la viande cachère parce qu'ils sont sûrs que l'abattage a été bien fait. Ça a toujours été comme ça. Entre parenthèses, la plus grande entreprise de viande halal en France, je crois que c'est Régalal, ouais. C'est monsieur Herzog de Neuilly. Tu connais ? Tu le connais, Dan ? C'est un copain de Marc Veil. Il était à l'école Akiba, il était à l'école juive. Hein. Il a la plus grande entre monsieur Herzog. Je crois qu'il a fait quelques petits dons à la yeshiva des étudiants. Il y a une idée.
Ragabizon de Kinyan Abraham me disait il y a quelques années, quand il était shochet pour la Keïla, qu'à l'abattoir, les musulmans attendaient, ils demandaient la bracha. Ils écoutaient la bracha du Shochet quand il fait l'égorgement. Ils étaient attentifs à ça pour pouvoir récupérer l'autre partie de la bête que nous, on ne mange pas.
Ouais.
Donc, ils demandaient la bracha. Là, ils disaient bracha, bracha.
Ouais, ouais.
C'est ce que Rav Abizon m'a dit. Ouais, ouais.
Donc, il y a quelque chose, si vous voulez. Donc là, c'est quelque chose de très, 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 très important que la shrita. Et d'ailleurs, les shochatim, c'est une halakha dans le Shulchan Aruch. Un shochet, c'est un rav. Un shochet, c'est pas un boucher. Un shochet, c'est un rav. Un shochet, c'est ceux qui connaissent des shochatim sont des gens souvent d'exception. C'est dans le Shulchan Aruch, il faut que ça soit des gens d'exception.
Il y a une différence entre shrita et svira, vraiment, ou c'est vraiment deux synonymes pour nous?
Il y a une nuance, mais regardez, on va aller dans le livre de Varim, mais j'ai peur de perdre du temps parce que je ne sais plus exactement où se trouve le verset. Mais en tout cas, au niveau de des lois de la Shrita, qui s'appelle Zvira, hein, là qui s'appelle Zvira, c'est l'égorgement. Cela est le même quand on fait pour la viande du quotidien et quand on la fait au temple. Voilà, c'est le même acte et c'est les mêmes intentions. Alors, regardez, j'ai déjà enseigné cela, une petite seconde. J'ai déjà enseigné cela peut-être à quelques-uns d'entre vous, mais regardez dans Parashat Toldot dans Bereshit, que la source spirituelle du sujet se trouve dans Parashat Toldot, chapitre 27 dans Bereshit. Kavzaïn. Oui, Laurence.
Je voulais dire, si ça ne perturbe pas trop le coup, donc finalement des sacrifices, il y en a qu'on brûle complètement, d'autres qu'on peut manger, il y a une autre catégorie. Je suis pas très instruite là-dessus. C'est juste pour avoir pas dire de bêtises ou.
Alors ici, dans le verset, il y a deux catégories. Il y a beaucoup de catégories de korbanot. Ouais, mais ici, on parle de deux catégories.
Oui, c'est ce que j'ai vu.
On parle de hola. Hola, ça c'est le singulier. Le pluriel, c'est holot. Ça c'est première catégorie. Ola, singulier, olot, c'est-à-dire c'est un korban. Je traduis pas sacrifice, je dis korban, entièrement brûlé sur l'autel. Première catégorie. Deuxième catégorie, c'est zévar. Zévar, dont qui est caractérisé par le fait de faire la shrita, par l'égorgement.
Il n'y a pas dans Ola.
Si, bien évidemment, on fait la shrita. Mais, si vous voulez, de manière subtile, pour comprendre ça, on va faire un petit détour. C'est nécessaire de faire un petit détour. Allons dans Parashat Toldot. Alors, on fait un petit détour, mais ce détour va nous aider, comme toujours. Des fois, il faut aller voir ailleurs et ça va nous permettre de mieux rentrer dans le sujet dans lequel on est, bien que ça a l'air d'être un autre sujet. Regardez le début du chapitre Kavzaïn de Bereshit. C'est bon, vous l'avez là?
Oui.
Yes. Abraham Drogoziner, tu as le texte? Oui, eh bien c'est magnifique. Ashley, tu as le texte? Bon? Eh bien c'est parfait. On y va. Vayehi kizaken Yitzhak. Vatichena enav mirot. Vaikra et Esav beno agadol. Vayomer elav beni. Vayomer elav ine. Ce fut quand Yitzhak fut vieux. Ses yeux s'atténuèrent de voir. Il appelait Esav, son fils grand, son fils aîné. Vayomer elav, il le dit, béni mon fils. Vayomer elav, il a dit, je suis là. Alors, il y a la grande question internationale. Pourquoi Yitzhak aimait Ésaü? Hein, grande question.
Il lui a apporté de la viande.
Comment?
Il lui a apporté à manger de la viande. Parce que Ésaü, c'était un chasseur.
Alors imagine, je ne sais pas, t'as un garçon, t'as une fille, t'as les deux. T'as...
Un garçon et des filles.
Ouais. Ouais. Alors, imagine, je ne sais pas, t'as un de tes enfants, il t'amène des côtelettes d'agneau bien grillées. Bon, c'est mignon, je veux dire, mais tu dis, bon, dis-moi, tu fais tes études, va faire, je sais pas, moi, prépare ton bac, je veux dire. Non, je veux pas, qu'est-ce que c'est que ces trucs-là?
C'est un cabode.
Lui, ça lui va, il lui amène des côtelettes grillées, il est content, je veux dire, c'est Yitzhak quand même, c'est notre patriarche. Il amène de la viande, ça y est, il est content.
Ah oui.
Oh, il y a un problème, non? Je sais pas, t'as des gosses, je sais pas. Bon, Rachel, moi j'ai un certain panel de gosses. Je sais pas, bon, il y en a, c'est des bosseurs, il y en a, c'est un peu des glandeurs. Je sais pas. Alors, le glandeur, il m'amène à bouffer, là, il m'amène, quand je vais chez lui, il sait que je suis bien. Un bon couscous royal, ça va, il m'a acheté, quoi. Ça y est, il m'a acheté.
Voilà.
Il m'a acheté. Il sait comment j'aime bien les boulettes avec du cumin, du camoun dedans. Ça va, c'est bon, tranquille. C'est un peu lèche, non?
C'est ça.
Un peu lèche, quand même. Alors, je vais vous dire. Il y avait un grand maître, je l'ai déjà rapporté. Hein. Je pense que quelques-uns d'entre vous l'ont déjà entendu, mais... Il y a un grand maître qui était à Nice il y a X années, qui s'appelait Rav Binyamin Ringer, Zichrono Libracha, et j'ai entendu de lui l'explication suivante. C'est que Yitzhak pensait que Ésaü était le Mashiach. Ah, c'est tout l'effet que ça vous fait, quoi. Je ne sais pas, rien, c'est sinon,
ça nous laisse sans voix.
Comment ?
Ça nous laisse sans voix.
Oui.
Il pensait que c'était le Mashiach. Et d'ailleurs, ce qui conforte cela, c'est que les qualités de Ésaü seront les mêmes que celles de David. Puisque quand le prophète Shmuel arrivera chez Ishaï pour nommer un roi parmi les fils de Ishaï. Quand il voit David, il dit « Vois Admoni, le doux rougeau, comme Ésaü. » Il a dit « Mais c'est Ésaü. »
Il faut qu'il soit berger aussi, pour David. C'était ça la qualité pour David.
Oui, d'accord, entre autres. Mais non, mais c'est, alors, le truc, c'est comme ça. En un mot, c'est que Jacob, bon, il était mignon, il était allé Shiva. Bon, ça va, Arnas, il me semble. Il étudie. Mais Ésaü, il était de toutes les expériences, de tous les plans, de tout. En vérité, c'est ça le truc. C'est que c'est quoi la vocation du Mashiach? C'est d'unifier toute la création au Dieu un. Qu'on vive, qu'il n'y a pas une dimension dans ce monde-ci qui soit exclue du service de Dieu, ça c'est la dimension du Mashiach. que la dimension du Mashiach, que que Dieu est un. Dieu est un, c'est de la théologie.
C'est-à-dire, il doit aussi traîner dans les bas-fonds, c'est ça que tu as dit.
Comment ? Voilà, si tu veux que quelqu'un puisse être en boîte de nuit et servir Dieu et faire que la boîte de nuit se transforme en lieu de sainteté, ça, c'est le Mashiach. Et moi, je peux vous dire que mon maître Rav Abitbol, quand je l'ai connu il y a 45 ans, 36 ans, c'était exactement ça. Je vous dis franchement, ceux qui l'ont connu à cette époque, c'était ça. Franchement, il avait la capacité, dans presque une boîte de nuit, de la transformer en un lieu de sainteté. Il pouvait faire ça. Il peut le faire. Moi, je l'ai vu, je l'ai vécu.
Ça veut dire quoi concrètement
Comment ?
Ça veut dire quoi concrètement ? Je ne comprends pas ce que ça veut dire.
Non, mais ne cherche pas à comprendre. Ça veut dire qu'il y avait, par exemple, une fête feuge, tu vois, des feuges et des feugettes, tu vois, en goguette, qui est des danses mixtes, etc., qui n'ont rien à voir avec la Torah, il arrivait à donner une ambiance de Torah à un mariage de 250 en boîte de nuit. Il arrivait à faire ça. Je ne sais pas comment il faisait, il arrivait à faire ça.
Il avait mettre l'ambiance.
À une ambiance de sainteté.
Mais de sainteté et d'ambiance.
À l'intérieur d'une ambiance délétère. Ambiance délétère. Jacob, il ne pouvait pas faire ça. Mais Ésaü, quand il voyait qu'Ésaü, il était foufou, Ésaü, il était de tous les coups fumeux, il dit « Ah ! Ça, c'est bon, ça. Ah, ah ! Ça, c'est bon ! Il me plaît, celui-là, ce petit-là. Il y a du potentiel. Viens, chérie, viens, viens. Allez, on va bosser ensemble. Viens. »
Mais il aurait pu aimer le potentiel sans aimer la concrétisation.
Tu vas voir. Tu vas voir. On y va, c'est parti. Attachez vos ceintures.
Le salut viendra des rouquins, alors.
Comment s'appelait le rab de Nice ?
Rab Binyamin Ringer.
Ringer.
Alors, verset bête. Vayomer. Il a dit. Inena zakanti lo yadati yomoti. Donc voilà, Isaac dit à Ésaü, son chouchou, il a dit, Inéna, regarde s'il te plaît, Zakanti, je suis vieux, Lo yadati yomoti, je ne connais pas le jour de ma mort. Verset Guimel, Viata, Sana kelecha telecha vekashtecha vetseatsade vetsudalit saïd. Et maintenant, Sana kelecha, ça, on avait déjà vu ça, pour les hébraïsants ou hébraïsantes.
Lèvres.
Comment ?
Lèvres, non ?
Élève tes kélim, tes outils, télécha, tes flèches, kashtécha, ton arc, vesté asadé soudalit saïd. Sors dans le champ pour me chasser Saïd, un gibier. Or, regardez dans vos livres, Saïd, c'est écrit avec un « e » à la fin. Saïd, Souda, Li, Saïd. Saïd, c'est un gibier. La Tsoud, c'est chassé. Latsoud s'est chassé, il devait chasse-moi Tsaïd un gibier. Or, le mot Tsaïd, il y a un E à la fin qui ne se prononce pas. Le voyez-vous ?
Oui, oui.
Certes.
Oui.
Alors, dans les éditions, par exemple, que moi j'ai, l'édition là. il rapporte le Baal HaTurim, qui rapporte la tradition, qui nous dit c'est quoi le « et » ? Le « et », valeur numérique de « et » ?
5.
5, Ramcha. C'est quoi ? Il lui a enseigné les 5 lois de la Shrita. La Shrita, il y a 5 lois orales de la Shrita. 5 lois orales de la Shrita. Et il lui a enseigné alors, une des lois fondamentales de la Shrita. Une des lois fondamentales de la Shrita, c'est de ne pas... Qu'est-ce que c'est la Shrita ? C'est quoi la Shrita ? La Shrita, c'est sectionner la trachée et l'ésophage. Donc l'ésophage, c'est le tuyau qui amène le manger. La trachée, c'est le tuyau qui amène l'air. Il faut sectionner.
En même
sectionner,
temps.
Sectionner, ça veut dire une seconde. Un cutter grand A. Bien. Sectionner, ça veut dire c'est couper. C'est interdit d'arracher. Interdit d'arracher. Ça veut dire arracher, ça s'appelle oker. On n'a pas le droit d'arracher. Ça veut dire quoi ? Par exemple, là, ce cutter n'est pas cachère parce que quand tu passes comme ça, il y a des aspérités. S'il y a une quelconque aspérité, ça arrache. Il faut que ça soit coupant absolu et tu passes pour voir s'il y a le chochet. Il doit passer le doigt. À la moindre aspérité, il doit aiguiser pour qu'il n'y ait aucune aspérité. Parce que s'il y a une aspérité, ça arrache. Donc, la Shrita...
Fais attention.
La Shrita, c'est une coupure. Ça veut dire, si tu appuies, ce n'est pas cachère. Ça veut dire, ce n'est pas la force de l'homme qui tue l'animal. C'est la section. C'est quoi la section ? En vérité, c'est un « et ». Le « et », c'est un souffle. Le « et », vous savez, nos amis... nos amis les bouddhistes, eux, il y a la syllabe fondamentale chez les bouddhistes, c'est Om. Vous connaissez ça, Damien? Tu dois connaître, toi, hein?
Ouais.
Om, comment?
Ouais.
Le Om. Ouais.
Vous le faites bien quand même.
C'est sa période bouddhiste.
Oh.
Mets ta robe, safran.
Ouais. C'est un souffle. Ce souffle, c'est le « et ». La Shrita, ce n'est pas la force. S'il y a la force, ce n'est pas kasher. C'est coupé. C'est pour ça que, excusez-moi de dire un peu des choses comme ça, c'est comme dans, il y a des passerelles entre la tradition juive et des traditions extrêmes orientales. Par exemple, dans les arts martiaux, moi je n'ai pas fait des arts martiaux, mais les arts martiaux, d'après ce que j'ai cru entendre, comme ça, c'est que ce n'est pas la force, c'est l'énergie. Ça veut dire, tu prends l'énergie, voilà! C'est pas paf, c'est pas comme ça. Non, tu prends l'énergie. Donc c'est pour ça que tu peux avoir des vieux pépés, des petits vieux. Ouais, t'as 10 balaises qui arrivent. Paf. Oui, voilà. Donc voilà. Donc ça, tout ça pour dire que la Shrita, c'est pas la force. c'est le souffle. Et c'est quoi le souffle ? C'est quoi le souffle ? C'est ce qu'on voit, regardez, dans le deuxième verset de la Torah. Regardez le deuxième verset de la Torah. Les Réchim bara Elohim et Hashamim et Haaret. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Va'aret saïta tohu vavou vechosher al pnei tehom. La terre était tohu bohu, obscurité sur la face de l'abîme. Ve'ruach Elohim rachefet al pnei amaim. Le souffle de Dieu plane sur la face des eaux. Le Midrash dit, c'est quoi la, le souffle de Dieu, c'est Ruchu shel Mashiach, c'est le souffle du Mashiach. Vérité, c'est ça le Mashiach. C'est-à-dire, nous, on est dans un monde de pulsionnalité, un monde d'animalité, de tout ce que vous voulez. Et le, c'est quoi ? C'est exactement ce que demande Yitzhak à Esav. Toi, tu es un chasseur. C'est quoi le chasseur ? Le chasseur, il va à la chasse. Ta-ta, 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 la chasse, ça court. Il y a les chiens. Pouah, ouah, pouah, ouah, pouah, 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 pouah. Ouais. À la chasse à court. Il y a le chevreuil, là, il court. Qu'est-ce qu'il doit faire ? À la chasse. Ouais, il est à la chasse. Top ! Le souffle de Dieu, ça n'a aucune force. À l'intérieur de ça, il y a le roi Elohim Rachefet Apnamaim. Il y a le souffle de Dieu qui plane. Ça, c'est ça ce qu'il voulait. Ce qu'il voulait, c'est qu'à l'intérieur du summum des pulsions, il arrive à se dominer pour exprimer une simplicité absolue. C'est ça la Shrita. Si l'homme arrive à faire ça, alors il peut manger de la viande. Ça veut dire qu'il arrive à dominer son animalité complètement pour insérer à l'intérieur de l'animalité une volonté supérieure. Ça, c'est le « et ». Ça, c'est ce que voulait Yitzhak, qui pensait que Ésaü était capable. Ésaü n'est pas capable, mais David sera capable. Donc, quand nous, on fait la Shrita en vérité, on se réfère à la Zvicha, qui est au Beth Amikdash, qu'on mangera cette viande. C'est quoi le Korban Shlamim ? C'est un Korban qui est mangé par les propriétaires, mais dont la Shrita se fait à l'intérieur du temple. Ok ? Alors, demain, Bezrat Hashem, on reprend ça, et après, on va dire quel est le lien avec les explorateurs. Paf ! Allez,
à suivre.